Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off.
Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'Ennéagramme, le MBTI et le DISC.
Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Direction l'Alsace, où on a Bruno qui nous rejoint. Bonjour Bruno.
Bonjour Justin.
Tu es coach en management et formateur.
Exactement. Depuis pas mal de temps déjà, voilà, puisque j'ai 63 ans et toutes mes dents. Ça fait quelques décennies que j'interviens dans ces deux domaines en particulier.
Alors, la connaissance de soi, le développement personnel, tu y es confronté comment? Comment tu l'as découvert? Comment tu as décidé finalement de te lancer là-dedans et de découvrir tout ça?
Avec, j'irai un point essentiel en ce qui me concerne, qui remonte à la naissance de mon fils. Mon fils est né en 94, donc il a 30 ans maintenant. Et on s'est rendu compte vers ses 2 ans et demi, que quelque chose clochait en lui. Quand il clochait, il faisait de l'écolalie. L'écolalie, c'est ces gamins qui, à une question posée, repose exactement la même question. Du genre, comment tu vas Antoine? Et lui répondait, comment tu vas? Et puis d'autres symptômes comme ça qui nous faisaient croire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis en fait, on s'est très vite rendu compte que notre fils était, et est encore aujourd'hui, hein, autiste Asperger. Et tout est parti de là. Vraiment, tout est parti de là. Je me suis rendu compte que je ne savais rien du tout sur tout ce qui est l'enfance, ce qui est l'autisme, ce qui est l'accompagnement. Et à cette époque-là, il y avait des choses qui se faisaient, mais pas grand-chose. Il était accompagné par pédopsychiatre, orthophoniste, si c'était que je me sentais vraiment très démuni. Et donc, je me suis plongé à fond, mais vraiment à fond, dans la connaissance de soi et des autres. C'est comme ça que c'est vraiment venu, en fait.
Alors, de là, évidemment, tu as découvert différents outils, j'imagine. Il y en a plein. Est-ce qu'il y a un outil en particulier, un outil qu'on pourrait qualifier de coup de cœur, que tu souhaiterais nous partager?
Oui, alors mon outil, alors il y a évidemment plusieurs outils qui me tiennent à cœur et qui sont aussi des outils de qu'on retrouve dans la boîte aux outils des coachs ou de managers ou de formateurs qui sont comme la PNL, l'analyse transactionnelle, tous ces outils que l'on connaît, hein, pour beaucoup en tout cas. Et il y a deux outils, moi, majeurs qui m'ont particulièrement marqué et qui me marquent encore aujourd'hui. C'est l'énéagramme, hein, et puis l'approche narrative. Et cet outil-là, particulièrement, m'a énormément aidé et m'aide encore aujourd'hui, à la fois dans le job que je tiens et à la fois aussi dans ma communication et puis dans l'accompagnement des autres de toute façon, hein, d'une façon générale.
Et puis en fait, il y a un point commun, hein, entre l'approche narrative et l'énéagramme qui est on est créateur de sa propre réalité puisqu'en fait, on n'est que la somme de ce qu'on se raconte. Je sais qu'il y a une phrase qui a beaucoup changé ma vie, c'est « une pensée n'est qu'une pensée ». Et à partir de là, on se rend compte que finalement, ce qu'on se raconte dans notre tête, les pensées deviennent des états internes, qui deviennent des comportements, qui deviennent des résultats, mais tout à la base ne part que d'une pensée et que d'un filtre de perception et qu'on peut décider de commencer à percevoir les choses autrement. Et c'est en ça que l'énéagramme est puissant, parce qu'on se rend compte qu'on perçoit la réalité au travers d'un filtre qui nous est propre, au travers d'une paire de lunettes qui colore les choses d'une certaine manière. Et finalement, l'approche narrative, elle a un peu le même but, c'est de nous montrer que on se raconte les choses et on va les filtrer. Et d'ailleurs, toi et moi, je pense qu'on a été confrontés aux mêmes choses, c'est de se rendre compte que dans nos clients, pour des clients qui ont vécu la même chose, soit on décidait de le transformer en une certaine résilience, et certains autres, c'est un boulet au pied, et ils sentent que ça les freine, ils disent bah, « parce que j'ai vécu ça, alors je ne peux pas faire ça », et d'autres « parce que j'ai vécu ça, et c'est du coup je suis devenue cette personne ». Et donc on se rend bien compte que tout dépend de l'histoire qu'on va décider de se raconter à l'égard de ce qu'on a vécu. On n'est pas responsable de ce qu'on vit, mais on est responsable de ce qu'on va en faire.
Exactement. Et effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, de toute façon, les travaux de l'approche narrative reposent sur beaucoup, beaucoup d'influences. Hein. L'idée, en fait, c'est, alors pour une fois, c'est pas américain. Cet outil est néo-zélandais et australien. Ce sont deux personnes, Michael White et David Epson, qui ont mis ça au point. Avec évidemment, donc encore une fois, avec des influences, et qui partent d'un postulat qui est Et c'est ce que tu dis, Cécile Florat, qui part d'un postulat qui est, ce n'est pas tant ce que nous avons vécu que nous retenons, c'est l'histoire que l'on forge à travers ce que nous avons vécu. Et ce sont les histoires qui tracent nos vies, en fait. Et donc, ça développe des croyances. Et il y a des croyances qui nous stimulent, qui nous font avancer, là où il y a des croyances qui peuvent complètement nous freiner, nous inhiber, nous empêcher, en fait, de nous réaliser. Et dans le cadre de l'approche narrative, c'est d'arriver à faire de telle sorte que lorsqu'on se sent bloqué, quand on est dans l'incapacité d'être à nouveau dans le mouvement de la vie parce que des croyances nous inhibent, d'aller chercher, on appelle ça l'exception, d'aller chercher dans l'histoire que racontent ces personnes le moment où cette croyance qui inhibe n'existe plus quelque part. Et on va aller faire de telle sorte qu'on puisse comme tracer, comme tisser une nouvelle histoire, on appelle ça dans le jargon de l'approche narrative, épaissir pour donner une nouvelle histoire qui stimule et qui donne en fait du sens à la personne qui a vécu des moments difficiles, par exemple. Pour revenir à mon fils, justement, c'était un lien très fort par rapport à ça, parce que lui, à aucun moment, dans le cadre de sa scolarité, j'ai voulu signifier qu'il est Asperger. Donc, je voulais pas qu'il soit montré du doigt. Je voulais pas du tout qu'il soit considéré comme quelqu'un à part. Bon, vous doutez bien que, malgré tout, il y avait des comportements qui faisaient qu'il y avait quelque chose qui le rendait différent des autres, vraiment différent des autres. Et le chemin qui a été parcouru nous a offert la possibilité à lui comme à moi, et par rapport à cette approche narrative qui a été un moment très très fort dans nos vies respectives, de tisser des croyances très fortes qui lui offrent aujourd'hui la possibilité d'avoir une vie quasi normale, et pour moi de me découvrir à travers le prisme du rôle du papa. Et donc de forger en fait des croyances nouvelles par rapport à un rôle de père, parce qu'en fait j'ai hérité l'éducation parentale et je voudrais pas jeter la pierre à mon père qui est au demeurant un homme formidable. C'était que il y avait des postures, des attitudes qui étaient complètement inadaptées par rapport à ce que moi je devais vivre avec mon fils. Et ça remet tout en question, tout à plat. Donc l'idée, c'est de se créer de nouvelles histoires, donc de nouvelles croyances. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment formidable. À un tel point que le lien que j'ai aujourd'hui encore, et j'espère pour longtemps, avec mon fils, c'est un lien très, très fort. Vraiment très fort. Et à tel point, d'ailleurs, qu'il m'appelle, ça, c'est aussi très, très, très Asperger, mais qu'il m'appelle parfois pour des broutilles qui pour quelqu'un d'autre n'aurait aucun sens pour appeler, quoi. Une poignée de porte qui cloche, n'importe qui réparait la poignée de porte, lui, il faut qu'il l'appelle pour savoir comment va la poignée de porte, quoi. En attendant, ça donne quelqu'un qui s'épanouit et qui est vraiment heureux dans sa vie. Et cet outil-là, entre autres, nous a énormément apporté et m'apporte encore aujourd'hui.
Merci Bruno pour ce partage très touchant. On va aussi parler d'un projet qui te tient tout autant à cœur. Tu es co-auteur d'un documentaire qui s'appelle « Le voyage du héros ». C'est un 52 minutes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors j'ai la chance de donner des cours à l'école de management de Strasbourg et puis à Excena, donc l'INSP. Et dans ce cadre-là, et plus particulièrement avec l'école de management de Strasbourg, on m'a demandé justement de faire deux sessions de cours sur le développement personnel par rapport à des ingénieurs qui font des cycles en management. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de parler du voyage du héros, parce que je trouve que c'est un outil qui est formidable, qui offre la possibilité de voir la façon dont on trace son chemin avec tout ce qui peut être de bon et de moins bon. Hein. Quand on parle de développement personnel, parfois, on stimule que les bons aspects, et dans le voyage du héros, il n'y a pas que ça. Et j'ai un voisin qui est caméraman, alors ça tombe vraiment bien, puis en plus, c'est un super pote. J'ai été le voir pour lui dire, ce serait peut-être bien de faire un film. Au début, je pensais 20 minutes, 28 minutes, sur les travaux d'un certain Joseph Campbell. C'est lui qui parle du voyage du héros à travers le cinéma, c'est un Christopher Vogler qui a repris les travaux de ce monsieur Campbell pour faire de telle sorte qu'on retrouve la trame du voyage du héros dans les films que l'on voit aujourd'hui au cinéma, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Et puis, on s'est retrouvé embarqué dans une histoire de dingue, puisqu'on en a fait un 52 minutes, avec 4 témoignages, 2 hommes, 2 femmes, qui racontent leur vie. Et nous mettons en exergue les étapes similaires que chaque témoin vit. Et ça donne un film qui à chaque fois touche, puisque l'idée est de faire un effet miroir par rapport au spectateur qui a la possibilité de regarder ce film sur sa propre vie. Et à chaque fois, on a des témoignages, puisqu'on projette ça dans des salles de cinéma, et à chaque fois, on a des témoignages magnifique justement, et des effets miroirs vraiment très touchants par rapport aux personnes qui réagissent aux témoignages qu'ils ont pu voir dans le cadre de ces 52 minutes. En fait, on l'a diffusé aussi bien évidemment à l'école de management de Strasbourg. On avait un public, c'était vraiment génial parce qu'il y avait, je sais pas combien, 380 personnes à peu près. Et parmi eux, il y a des élèves qui étaient là, mais avec l'obligation d'être là. Hein. Ce qui n'empêche que il y a eu de très belles réactions aussi sur un public jeune. J'avais des craintes, je me suis dit, quand on a 22, 24 ans, ça parle pas forcément, ça va peut-être plus parler à des personnes plus âgées. Alors, ça parle aux personnes plus âgées, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et pour ceux qui ont vécu des moments difficiles, ça parle indéniablement. C'était que pour un public plus jeune, j'ai été avec Chris, hein, on a été particulièrement surpris des réactions qu'il y a eu par rapport à ce voyage du héros. Parce que même jeune, il y a un effet qui est là, qui offre la possibilité pour certains de se prémunir en fait de certains pièges peut-être à éviter, ou en tout cas de se dire où est-ce que j'en suis dans mon voyage du héros, quels sont les démons auxquels je fais face. On doit appeler ça des démons, hein, les défis, les embûches, comme dirait Campbell. Et puis, quels sont mes mentors? Et je crois que dans le voyage du héros, ce qui est vraiment génial, c'est de savoir sur qui je peux compter, quelles sont les personnes qui me soutiennent, quels sont mes mentors, pour arriver à faire de telle sorte que je puisse franchir le seuil et aller dans l'inconnu. Parce que la vie est ainsi faite, on s'accroche à notre zone de confort, on veut rester dans cette zone de confort, alors que le voyage du héros t'oblige en fait à aller dans l'inconnu. La vie est faite de défis, et ces défis à relever sont toujours dans cette zone très inconfortable qu'on ne connaît pas. Et quand on bénéficie de mentors, et qu'on sait les repérer et puis s'appuyer dessus, c'est quelque chose qui donne les moyens d'être beaucoup plus, je dirais, à défaut d'être à l'aise, en tout cas, de se sentir rassuré. Et ça, c'est énorme. Et c'est ce dont je me suis rendu compte avec beaucoup de recul de ce que j'ai pu apporter, par exemple, par rapport à mon fils, bien évidemment, par rapport à d'autres. C'est une chance, hein, mais vraiment par rapport à mon fils. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont géniaux, quoi. Et le voyage du héros, quand on s'immisce là-dedans, de se dire où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apprend de ce que je suis, qu'est-ce que ça donne dans le sens que je veux donner à ma vie. Et quand on s'intéresse vraiment à ça, ça devient quelque chose d'extraordinaire.
Oui, je confirme, puisque tu m'as fait l'honneur de me laisser l'accès à ton documentaire dans le programme Se découvrir avec l'Ennéagramme. Et mes stagiaires ont pu le découvrir, et ça a été un effet waouh. Il y en a beaucoup qui ont pleuré, qui ont été très touchés, qui se sont reconnus dans certains témoignages. Et notamment, une fois qu'ils avaient appris à bien se connaître avec l'Ennéagramme, on a pu identifier les étapes dans lesquelles certaines personnes ont tendance à rester bloquées, ou au contraire, quelles sont les étapes dans lesquelles on a plus de fluidité, plus de facilité. Donc ça permet de ton documentaire et de, quand on s'intéresse au voyage du héros, de connaître, de conscientiser les étapes. Ensuite, de comprendre les phases et d'acceptation d'un changement et des cycles. Et puis derrière, l'idée, c'est de comprendre comment on peut traverser ces étapes et de mettre, encore une fois, hein, c'est une ouverture de conscience, ouvrir sa conscience à ce qui se passe quand ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein d'anciens stagiaires qui me disent « Ah, bah alors, dans mon voyage du héros, je suis dans cette étape-là. » Et en plus, je trouve le mot sympa, ça nous ramène en enfance, le voyage du héros, ça nous rappelle justement les épopées qu'on voit dans les dessins animés, dans les contes, et on se rend compte qu'il y a toujours une même trame. D'ailleurs, c'est une trame qui est utilisée pour bâtir un scénario. Je travaillais avec quelqu'un qui fait Ennéagramme et cinéma et qui en parle et qui dit « Ah ben, c'est chouette que Bruno Laurent en parle avec le développement personnel parce que souvent, c'est utilisé pour... On en parle quand on apprend à écrire un scénario. » Et moi, je trouve que c'est un outil qui, encore une fois, est simple, qui parle à tout le monde et qui permet de mettre de la conscience et des mots sur des fois un espèce de brouhaha ou de cacophonie ou de malaise ou de trucs qu'on comprend pas. Et parfois, quand on est en train de naviguer et qu'on n'a pas vraiment vu sur ce qui se passe, c'est intéressant de revenir à des choses très simples. Bah tiens, en fait, voilà, là, j'ai un appel à l'aventure, je le prends pas parce qu'en fait, j'ai des peurs, parce que je suis accrochée à certaines loyautés vis-à-vis de mon environnement, vis-à-vis de mes parents, et là, je vais avoir besoin d'un mentor ou de quelqu'un qui me fait passer ce cap ou cette étape.
Et complètement. En fait, les travaux de Campbell, lui, partaient d'un postulat à l'origine. C'était comment se fait-il que des civilisations qui ne se sont jamais croisées ou connues racontent les mêmes histoires. En fait, on raconte l'histoire de l'humanité à travers ces étapes. Et l'idée des travaux de Campbell, à travers son livre qui s'appelle « Le monomythe », c'est de démontrer qu'en fait, ces histoires de vie sont plutôt des vies intérieures. C'est une quête intérieure. Bien évidemment, le fait de faire le voyage du héros nous oblige à être en contact avec tout notre environnement. Et ce que tu dis est très juste, c'est que quand on comprend les étapes, c'est comme une pierre de rosette. C'est-à-dire que ça offre la possibilité de te dire « Ah, mais j'en suis là ». Ça ne va pas rendre les choses forcément plus faciles, mais on va mieux les comprendre. Et puis, les défis auxquels nous faisons face, c'est pas forcément de notre faute. Ça, c'est d'ailleurs même pas de notre faute. C'est l'humanité, c'est comme ça. C'est ce que nous vivons tous. Nous sommes tous face à de l'injustice. Nous sommes tous face à de l'incompréhension. On est tous confrontés à des choses terribles dans la vie, que ce soit des problèmes de fric, mais ça peut être des problèmes de santé, des problèmes de relations toxiques, ou être face à un défi parce qu'on veut entreprendre quelque chose et puis être complètement démuni. Parce que dès lors que l'on désire quelque chose, les problèmes se mettent en place. Et dans le cadre de ce voyage du héros, est extraordinaire, en tout cas pour moi, et dans le partage que je peux faire avec d'autres, c'est que ça offre cette possibilité, comme une boussole, de se dire « voilà où j'en suis ». Je comprends mieux d'abord mes agissements, je comprends mieux mes obstacles, parce que parfois je les crée moi-même, je peux mieux comprendre aussi que mes obstacles sont souvent que dans ma tête, et pas forcément uniquement vis-à-vis de l'environnement, et puis à travers ça, c'est qu'est-ce que je peux entreprendre, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'extirper de ça, mais surtout aussi d'en tirer des leçons. Car la vie est ainsi faite, si je suis dans l'incapacité d'en tirer des leçons, je grandis pas. Or, la vie est faite d'apprentissage, et le voyage du héros, ce sont des apprentissages. Et dans l'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se casse la figure, souvent, on tombe, on chute, et c'est bien parce qu'on chute qu'on apprend. Et parce que j'apprends et que je suis en capacité d'en tirer des leçons, j'arrive à mieux avancer dans ma vie. J'arrive en fait à avoir plus d'outils quelque part pour pouvoir affronter ce que je dois affronter et m'offrir, plus de possibilités pour pouvoir réagir face à une situation. Si par exemple, je suis que dans le mensonge face à des situations auxquelles je fais face, et que je ne sais que mentir parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir m'extirper d'un mauvais pas, et que à travers la vie que je mène, je suis en capacité de tirer des leçons, je vais me rendre compte que le mensonge, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, qu'il y a plein d'autres façons de pouvoir réagir pour pouvoir me respecter, m'aimer et arriver à progresser. Et le voyage du héros là-dedans est vraiment dans cette façon d'approcher, cette façon de grandir, est quelque chose de génial parce que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un voyage, donc on est dans le mouvement. La vie est un mouvement. Si on est pris d'un trauma, ça bloque, on n'avance plus, on ne peut plus bouger. Alors que c'est bien le mouvement qui nous fait grandir. Héros, et tu l'as bien dit tout à l'heure, on est l'héros et l'héroïne de sa vie. C'est pas peu que de dire héroïne, parce que ça demande du courage, ça demande de la pugnacité et du courage. Si je n'ai pas ça, je m'enferme à nouveau, je suis à nouveau bloqué. Et puis, ça, les voyages du héros, on emmène. Il y a un voyage du héros qui est notre vie, mais il y a plein de voyages du héros qui sont dedans. Hein. Il y a plein de voyages du héros, un divorce, un licenciement, la volonté de créer une boîte, ce sont plein de voyages du héros. Et parfois, il y a des personnes qui vivent plusieurs voyages du héros en même temps. Et ça, c'est très chaud, hein. Vraiment très, très chaud.
Oui, merci. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça va leur parler. Il y en a peut-être déjà qui ont identifié dans quelle étape ils étaient. Alors parfois, on fait des boucles hein, sur certaines étapes, puis on a du mal à passer sur les dernières étapes. Et effectivement, nous, en tant qu'accompagnants du changement, utiliser le modèle du voyage du héros, ça fournit un cadre structuré pour guider nos clients à travers un processus de développement personnel et ça leur permet d'identifier simplement dans quelle phase ils sont bloqués.
Pour faire court, pour donner quand même quelques étapes, bon, il y en a une douzaine, mais pour faire très simple, il y a l'étape de la vie ordinaire. Dans cette vie ordinaire, elle peut être inconfortable, mais on est dans cette zone de confort parce qu'on connaît bien cette vie ordinaire. Et puis, il va se passer quelque chose qui va nous amener justement à nous dépasser puis à quitter cette vie ordinaire. Et dans ce dépassement, en général, on négocie toujours avec le passé. On n'a pas tellement envie de franchir ça. Et c'est souvent donc un mentor qui va nous inviter à franchir le pas. Et quand on passe le seuil, on peut plus faire machine arrière. On est parti dans cette aventure. Et c'est là où commence véritablement le voyage du héros. On va faire preuve, faire face à des épreuves, à des défis, à des démons, des dragons, peu importe les noms qu'on donne. Mais il y a des ennemis, voilà. Puis on va y trouver des alliés. Ça nous forge. C'est notre vie, c'est notre quotidien. Hein, quand on est vraiment confronté à un voyage du héros. Et puis, à travers ça, il y a cette fameuse étape qu'on appelle l'épreuve ultime et qui est vraiment la transformation complète que l'on vit, qui nous offre la possibilité, à travers cette transformation complète, de repartir avec l'objet de notre quête. Et puis, quand on revient à cette vie ordinaire, on n'est plus la même personne, on a changé. Et ça nous rend plus fort. Voilà, c'est résumé évidemment très rapidement par rapport à ce voyage. Et comme tu le dis, savoir où j'en suis dans ce voyage, savoir me situer à la fois par rapport à l'environnement dans lequel je suis et à la fois par rapport à moi-même, parce que c'est bien parce que je me découvre mieux que je suis plus en capacité de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir aller au contact des autres et trouver là où il y a les alliances, trouver, mieux identifier les relations qui peuvent être difficiles ou dérangeantes, qui me permettent de pouvoir comprendre là où j'en suis.
Alors je reviens sur le documentaire dont tu es co-auteur, hein, Le Voyage du Héros. Je précise qu'il n'est pas encore distribué sur les différentes plateformes. Néanmoins, c'est en projet et peut-être en cours. Donc si vous souhaitez le retrouver, restez informé auprès de tes réseaux. Bruno, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Bruno Laurent, vous pouvez le retrouver facilement sur le réseau et tu communiqueras en temps voulu, en temps utile, les informations relatives à la sortie de ce documentaire qui est très poignant, en tout cas. Alors, tu es coach en management. En quoi ta profession aujourd'hui, finalement, t'épanouis, qu'est-ce qui te porte dans ton travail ?
Ce qui est vraiment génial, c'est quand il y a une alliance qui se fait entre la personne coachée et le coach sur des problèmes. Alors, en ce qui me concerne, sur des problématiques managériales. Donc, ça concerne beaucoup plus donc des personnes qui sont amenées à animer des équipes, ça va de une personne à quelques centaines, en fonction évidemment des structures, et de leur donner les moyens d'une prise de recul. C'est ça qui est vraiment génial, c'est leur donner les moyens de pouvoir mieux percevoir leur façon d'agir, leur style de management, d'apporter dans ce style de management des orientations leur offrant la possibilité de pouvoir progresser. C'est ça qui est vraiment génial, ce sont des moments de partage et très égoïstement, je m'enrichis tout autant de leurs histoires que je peux leur apporter quelque chose. Et c'est un échange qui est vraiment extraordinaire. Et pour avoir managé des grosses structures et pour avoir été formé évidemment au coaching, ces temps d'échange sont de véritables bulles d'oxygène qui permettent, je dirais, pour que la personne qui est dans cette situation à mieux se comprendre, à mieux comprendre les enjeux et arriver à mieux piloter quelque part. Et ça, c'est des super moments parce que quand ça match et puis quand on voit que ce qui a été mis en œuvre porte ses fruits, ben moi j'en suis très heureux, vraiment très très heureux. Et puis à travers ça, c'est aussi de donner les moyens. Le coaching, quelque part, il y a du développement personnel, hein, quoi qu'on en dise. C'est aussi pour la personne de pouvoir aussi avoir un effet miroir et de grandir à travers ça. Et pour peu que cette personne soit vraiment acheteuse du coaching et qu'elle décide de se re-questionner et de voir que cette personne grandit à travers ça, c'est un enrichissement qui est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, vraiment super. À tel point d'ailleurs que beaucoup de personnes que j'ai coachées, je suis toujours en contact avec elles depuis des années déjà. Il y en a qui se remanifestent ou d'autres qui me donnent la possibilité à travers du bouche à oreille de me retrouver à coacher des personnes qu'ils connaissent. Et voilà, c'est vraiment génial. C'est un très beau métier.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aux différentes personnes qui nous écoutent et qui découvrent peut-être seulement, mais sans jugement, hein, le développement personnel, qui ont entamé ce chemin-là? Quel conseil tu pourrais leur donner?
Le conseil que je pourrais donner, parce que c'est vrai que c'est souvent décrié, et quand on va dans les librairies, il y a des rayons complets de développement personnel, et c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Hein. Pour peu que tu sois dépressif et que tu lis dans un manuel, il suffit de sortir et les marcher une demi-heure. Pour un dépressif, il y en a pour lesquels c'est juste un exploit de pouvoir sortir de son lit et aller sous la douche, quoi. Hein. Le conseil que je donne, c'est vraiment, pour ce que j'ai pu vivre à travers ma propre vie et puis à travers des personnes que j'ai pu accompagner, que j'accompagne encore, c'est jamais lâcher. Vraiment, ne jamais lâcher. C'est la pugnacité. Même dans les moments les plus durs, même dans les moments où on est dans une dépression, le mouvement est important. De se dire, merde, il faut que je bouge, il faut que j'arrive à sortir de mon lit, il faut que j'arrive à aller sous cette putain de douche, pour parler vulgairement, je suis désolé. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire à travers ça. C'est même quand on doute de soi, on ne croit plus en soi. C'est vraiment de dire, mince, il faut que je continue à bouger. Il faut que j'ai la force, que j'ose bouger. Vraiment, c'est le conseil que je peux donner. Parce que je l'ai vu, ça. Ceux qui ont cru à ce mouvement-là, qui se sont dit, bah, tant pis, je mets juste un pied devant l'autre. Ça me rappelle une histoire, en fait. Est-ce que je peux la raconter très vite, Justin, cette histoire? C'est cette histoire qu'on m'a racontée. D'un ami très proche qui s'appelle Denis Jacquard et qui m'a raconté la cabane aux mille et un démons. Cette cabane aux mille et un démons, c'est en fait le Dalai Lama, mais il y a très longtemps, qui était plus que centenaire, qui se retrouve face à une cabane sur les hauts plateaux de cette chaîne himalayenne. Et puis, il y a des nonnes et des moines qui sont là. Et parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont volontaires pour entrer dans cette cabane qui porte ce nom de mille et un démons. Et ce Dalai Lama dit, bah, écoutez, voilà, cette cabane s'ouvre une fois tous les 100 ans pour pouvoir atteindre le nirvana d'une façon beaucoup plus rapide que passer toute sa vie à chercher à l'atteindre. J'ai plus de 100 ans et j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans cette cabane et de vivre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle la cabane aux mille et un démons. Et pour tous ceux qui sont volontaires ici présents aujourd'hui, je souhaiterais leur dire ces conseils suivants. Quand vous serez entré à l'intérieur, une fois la porte fermée, il n'y a pas de poignée. Vous ne pourrez même pas rouvrir, vous pourrez forcer comme vous voulez, ça ne sera plus du tout possible. La seule solution qui existe, c'est d'aller de l'avant. Pour franchir l'autre porte, celle-ci vous donnera la possibilité d'aller justement à la lumière de ce nirvana. Si ce n'est que vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Si vous avez peur du vertige, vous serez confronté au vertige du vertige. Si vous avez peur des insectes, des araignées. Vous en aurez qui viendront sur vous, qui rentreront par tous les orifices. Si vous avez peur de la mort, vous la sentirez, vous la toucherez, vous la palperez. Et si j'ai un conseil à vous donner, sachez que tout ce que vous verrez dedans n'est que la représentation de vos peurs. Ce n'est en aucun cas la réalité. Malheureusement, quand vous serez à l'intérieur de cette cabane, eh ben vous aurez oublié tout ce que je dis. Pour vous, tout ça ne sera que réalité. Alors voilà mon conseil. Mon seul et unique conseil, quoi que vous voyez, quoi que vous ressentiez, quoi que vous respiriez, quoi que vous touchiez, pensez qu'à une seule chose. Mettez un pied devant l'autre. Mettez juste un pied devant l'autre. Et c'est ça que je veux vous donner comme conseil. Quoi qu'il nous arrive, même quand on est bloqué, pris vraiment par des choses très difficiles, c'est juste de mettre un pied devant l'autre et d'avancer.
Message reçu 5 sur 5.
Bam.
Merci pour la leçon.
Et tu sais, vraiment, ceux qui nous écoutent, je vais répéter cette phrase. Une pensée n'est qu'une pensée. Et tu viens de dire quelque chose d'important là, par rapport à la mort. Moi, pendant des années, j'étais terrorisée à cette idée-là. Jusqu'à ce qu'un jour, je change l'histoire que je me racontais à l'égard, l'histoire que je me racontais à l'égard de la mort. Et ça a fait changer complètement mes états internes, mes représentations. Voire même, je suis passée d'une peur panique à comme un sentiment d'envie et de curiosité. Me dire, tiens, en fait, si finalement, c'est peut-être même une, peut-être qu'après la vie, c'est peut-être pas la mort, en fait. Peut-être que c'est une autre vie. Peut-être que c'est même... En fait, ce qu'on appelle la vie, c'est peut-être pas la vie. Si ça se trouve, là, on est mort et on le sait pas. Puis si ça se trouve, après, c'est la vie. Et je suis partie dans des questions existentielles et je me suis dit, waouh, en fin de compte, c'est tellement génial de pouvoir me recréer avec de la curiosité et l'histoire que je me raconte, une autre réalité, mais à laquelle je crois. Hein. C'est pas juste une histoire que je me raconte. Et à travers cette histoire, j'ai envie de partager aux gens, vraiment, tout va dépendre de l'histoire que vous allez vous raconter à l'égard d'un événement passé ou à l'égard d'un événement futur. Et tout n'est que pensée. Et là-dessus, vous avez
exactement
le pouvoir.
Exactement. Et puis, si tu me permets de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as évoqué, à laquelle je viens de penser, qui revient aussi à l'approche narrative et de ce que tu viens d'évoquer, notre point de vue n'est qu'une perception de la réalité, ce n'est pas la réalité. Et pour peu que je change de perception, comme tu viens de l'évoquer à travers ton histoire, ben je peux déjà commencer à raconter une nouvelle histoire. Et on est tellement, il y en a qui sont tellement dans les certitudes de leur pensée qu'ils ne voient pas qu'ils restent bloqués telle la mouche qui se cogne à la vitre alors que la vitre est grande ouverte à côté. Et qu'il suffit justement de prendre du recul et prendre... et d'accepter, en fait, parce que c'est pas toujours aussi évident, une autre perception, parfois la perception d'un mentor, la perception de quelqu'un aussi qui dit quelque chose en face de soi en se disant, mais elle a pas forcément tort, je devrais peut-être reconsidérer ce qu'elle me dit avec une perception nouvelle. Et donc, de fait, je peux voir les choses différentes. Et le fait de donner de nouveaux prismes à la perception que j'ai de ma réalité m'offre la possibilité de grandir. Et ça, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a vraiment pas de prix. Et de fait, ça veut dire aussi garder l'esprit curieux. Et ça, c'est vraiment important, et ne pas rester... Les gens qui sont remplis de certitudes me font peur, moi. Je préfère les gens qui ont de la nuance et du doute. Et on le sait, hein. Plus je suis dans la certitude, moins j'ai la connaissance ou le savoir. Plus je sais, plus j'ai la connaissance, et plus je mets de la nuance et je doute. Et je crois que ça aussi, c'est très important à retenir.
Merci beaucoup, Bruno, pour ce partage.
Je t'en prie, Justin.
Merci, merci beaucoup. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin ?
J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Moi, j'espère qu'en tout cas, ça pourra donner envie à des personnes ou que ça peut être, entre guillemets, inspirant. Si je peux être inspirant, je ne le sais pas. En tout cas, de donner les moyens à des personnes qui se sentent un peu perdues de se dire, waouh, il y a peut-être, il faut que je croie en moi, et puis qu'il y a plein de choses à l'extérieur. Je peux pas compter que sur moi. Il y a des choses à l'extérieur qui se font, qui sont vraiment géniales, d'aller à la rencontre de gens, d'écouter, comme ces podcasts. Moi, je trouve ça, extraordinaire de proposer des podcasts pour donner les moyens à des personnes de pouvoir mieux se projeter, de pouvoir mieux réfléchir, de pouvoir se positionner, de pouvoir rebondir. Je crois que tous, à des moments de nos vies, on en a besoin de ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire.
Si vous voulez me contacter pour réaliser un bilan de personnalité ou suivre l'un de mes programmes, rendez-vous sur www.cecileflora.com. Sur mes réseaux Instagram, vous me trouverez sous le nom cecileflora.enneagram ou encore sur Facebook dans le groupe Cécile Flora fait de l'Enneagramme.